Passer à la troisième partie sur le versant administratif des démarches avec Madame Delaine, qui est une patiente experte, notamment du réseau, et Julie Ponce, qui est assistante sociale dans le pôle de médecine physique de l'hôpital de la Timone.
Bonjour. Alors pourquoi vouloir parler des démarches administratives avec une SEP ? Bien parce que la SEP, c'est une maladie chronique évolutive et qu'elle va nous conduire à un moment ou à un autre à prendre contact avec des personnes qui vont pouvoir nous accompagner dans cette vie avec la maladie. Avec Julie Ponce est assistante sociale, elle va traiter de l'aspect social. Et moi, de mon côté, je suis une spécialiste du droit du travail et donc je vais intervenir sur le volet professionnel puisque cette vie avec la maladie va impacter le professionnel.
Bonjour. Donc, nous intervenons après le programme qui parlait d'activité physique. C'est intéressant puisqu'effectivement, les démarches administratives, c'est parfois sportif. Et on se demande si parfois ce n'est pas un peu... J'ai raté ma blague, du coup, les 12 travaux d'Astérix, puisqu'effectivement, nous sommes désespérément à la recherche de ce laisser-passer à 38 que nous ne trouvons pas. Et nous nous perdons parfois dans les différents, auprès des différents organismes, les différents acteurs qui nous entourent et qui nous accompagnent. Donc, nous allons essayer de vous présenter ces différents dispositifs de façon un petit peu plus simplifiée, toujours assez générale, voilà, pour essayer de correspondre au plus grand nombre. Et les questions pourront permettre, voilà, d'aller vers un petit peu plus de spécificité. Donc, alors, nous avons choisi effectivement, bon, nous avons choisi aussi Douros, mais bon, ça c'est juste pour faire sourire. Donc effectivement, hein, on a décidé aussi d'aborder ces questions-là de façon un petit peu chronologique. Au moment de l'annonce de la maladie, on revient, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais? Et effectivement, déjà, ben, j'en parle à mon médecin traitant qui est là pour coordonner aussi, on le sait, hein, les différents aspects du parcours de santé de façon générale, et puis là, avec une affection de longue durée en particulier. Donc, effectivement, voilà, on lui demande de faire reconnaître cette fameuse affection de longue durée, puisque la sclérose en plaques en est une, comme indiqué par les différents organismes d'assurance maladie. L'intérêt, il y en a différents, donc j'aurais pu mettre un S, effectivement. Notamment, ça va permettre d'accéder à différentes consultations qui vont être facilitées, à éviter d'avoir à faire tout ce qui est remboursement, avance de soins, pardon, et va permettre, en cas d'éventuel arrêt de travail et d'indemnité journalière, de pouvoir poursuivre ces indemnités journalières sur une période de 3 ans, ce qui n'est pas possible quand l'affection de longue durée n'est pas reconnue. Elle va permettre notamment, en cas de prescription médicale de transport, de pouvoir faciliter l'accès aux soins. Donc l'affection longue durée, eh bien, de cet ordre-là, c'est de faciliter l'accès aux soins, malgré le coût que peuvent représenter ces fameux soins. Donc, effectivement, rapidement, hein, on s'interroge sur ses capacités à trouver notamment un emploi, à poursuivre son travail et à s'y maintenir. On continue sur la reconnaissance du travail.
Voilà. S'agissant d'une maladie qui touche la plupart du temps des personnes jeunes, la première question qu'on va se poser, ça va être, est-ce que je dois parler de cette maladie à mon employeur ? Qu'en pensez-vous ? Non. Non, il n'y a pas d'obligation de parler de sa maladie à son employeur. Et au médecin du travail ? Non, non, il n'y a pas d'obligation d'en parler au médecin du travail. C'est recommandé malgré tout, c'est recommandé parce que le médecin du travail est le seul médecin qui fasse le lien avec l'entreprise. C'est lui seul peut rentrer dans l'entreprise, lui seul connaît et vos capacités et vos aptitudes et les difficultés du poste du travail, les contraintes du poste du travail. Donc, c'est une personne qui va pouvoir suivre votre état de santé, mesurer l'état de santé, l'évolution de votre état de santé à la réalité de votre travail, faire des propositions d'aménagement de temps de travail, de postes de travail si c'est nécessaire, qui va faire le lien avec des institutions qui ensuite pourront intervenir, notamment la GFIP, pour financer ces aménagements et vous permettre de rester au travail. Et puis, c'est lui qui sera consulté avant toute décision d'inaptitude, de reclassement, de départ de l'entreprise. C'est un personnage clé auquel on peut faire confiance. Il est lié par le secret médical, il n'est pas salarié de l'entreprise et c'est un atout. Deuxième question que l'on peut se poser, vais-je pouvoir faire reconnaître ma qualité de travailleur handicapé puisque la notion de maladie chronique n'est pas reconnue par le droit du travail. Mais vous avez certainement noté qu'on vous a souvent posé la question, dois-je demander la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé? Qu'en pensez-vous? Oui. Oui, c'est un atout, c'est un atout. Il ne faut pas hésiter, après le diagnostic, à présenter à la maison départementale des personnes handicapées cette reconnaissance, d'accord? Vous l'utiliserez ou pas, en fonction de l'évolution de votre état de santé, mais on la demande et on l'a dans sa poche. Voilà. Et elle va permettre, elle a un intérêt, elle a beaucoup d'intérêt cette reconnaissance, parce qu'elle va vous permettre quand même de bénéficier d'actions de formation, elle va permettre à l'entreprise de bénéficier d'aide au maintien dans l'emploi, d'aide à l'aménagement du poste, de dispositifs spécifiques ouverts uniquement aux personnes disposant de cette reconnaissance. Ensuite, on a donc choisi de présenter les démarches administratives d'une manière chronologique. On considère qu'on rentre dans la vie professionnelle, on est rentré depuis peu, on est atteint par la maladie. À un moment, la fatigue ou quelques difficultés vont conduire peut-être à interrompre le travail. Qu'est-ce qu'on fait? Dans quelles conditions peut-on s'arrêter de travailler? Eh bien, la première possibilité de s'arrêter d'une manière momentanée, c'est de solliciter l'arrêt de travail. Le personnage clé, là, est le médecin traitant. C'est lui qui va adresser c'est lui qui l'établit, qui l'adresse ensuite à la caisse primaire, à l'employeur, et elle ouvre droit aux indemnités journalières et aux compléments prévus par les lois et les conventions collectives de travail. On va retrouver parallèlement les mêmes éléments concernant les fonctionnaires ou concernant les contractuels dans la fonction publique, avec des démarches un peu complexes pour ce qui est de la fonction publique, puisque d'autres acteurs interviennent, notamment le médecin agréé et le comité médical. Outre la maladie, il y a une autre possibilité de faire face aux difficultés qui se produisent, notamment à la fatigue, c'est le temps partiel thérapeutique, qui est ouvert dans tous les secteurs selon des modalités différentes, mais qui permet de reprendre à la suite d'une période de maladie le travail. On reprend le travail selon des modalités plus légères. Dans le secteur privé, on va pouvoir travailler entre 10 et 90% de son temps de travail. Dans la fonction publique, c'est un peu plus étroit, c'est de 50 à 90%, c'est limité à un an. D'accord ? La durée du temps partiel thérapeutique dans le secteur privé, elle n'est théoriquement pas limitée. Dans les faits, au bout d'un an, souvent, il y a intervention du médecin conseil de la sécurité sociale qui propose un basculement vers l'invalidité, première catégorie. Maintenant, toujours dans le cours de la vie, au cours des cours de vie, on va parler donc de la MDPH qui va intervenir pour faire des propositions, permettre de trouver des solutions.
Je prends le relais, effectivement. Donc la MDPH, on en a rapidement parlé au travers de la reconnaissance travailleur handicapé. Donc c'est effectivement un guichet unique, comme on dit, départemental, maison départementale des personnes handicapées, qui remplace, voilà, à l'époque, la COTOREP et la CDES. Mais c'est vrai que certains en parlent encore. Donc cette maison départementale des personnes handicapées, elle est composée d'une équipe pluridisciplinaire qui, elle, va donner son avis, et après d'une commission qui, elle, va décider. Donc, elle permet notamment d'avoir une évaluation de son taux d'incapacité qui va être envisagé de façon globale dans les différents actes de la vie quotidienne et pas uniquement sur le versant professionnel, comme ça peut l'être, comme c'est le cas au niveau de l'assurance maladie. Donc, le fameux taux d'incapacité, hein, maintenant on n'a plus de taux fixe, hein, on ne dit pas j'ai 43% ou 87,5%, bon, c'est des tranches effectivement. De ce qu'on a vu a priori quand les demandes sont faites pour une personne qui présente une sclérose en plaques, les taux seraient plus entre 50 et 79% et à partir de 80. Donc comme on le disait, ces taux-là, c'est différent. Hein, MDPH, c'est bien différent de l'assurance maladie qui elle va traiter encore une fois le versant remboursement des soins, indemnité journalière et pension éventuelle. Donc, alors, c'est un bien gros tableau. Donc, vous avez peut-être entendu le fait que maintenant, les cartes d'invalidité, cartes de priorité, cartes de stationnement étaient remplacées, entre guillemets, par une carte unique, en fait, la carte mobilité-inclusion, qui va avoir plusieurs mentions, d'accord ? Mention invalidité, mention priorité, mention stationnement. Le principe est le même, hein, juste les formats sont différents, a priori un petit peu moins falsifiables et productibles un petit peu plus rapidement. Donc, encore une fois, là, les éléments pour revenir dessus, si vous le souhaitez. Juste à préciser, donc, la carte de stationnement est vraiment la seule qui permet de se garer sur les places réservées. Carte d'invalidité, peu importe le besoin d'accompagnement ou pas, ne le permet pas. Hop. Donc, on aborde la question des éventuelles aides financières qui peuvent être accordées par cette maison départementale des personnes handicapées. On va voir qu'il y a une limite d'âge, pour accéder à cette prestation-là. Donc, on parle de prestation de compensation du handicap et effectivement, il y a plusieurs façons de compenser des difficultés. Donc, plusieurs volets pour la prestation de compensation, volet aide humaine notamment, volet aide technique, aménagement du logement, etc. Donc, le volet aide humaine. Donc, on précise, hein, un peu grossièrement, que donc ce n'est pas fait pour le ménage, mais parce que c'est vrai que ça, c'est une des demandes principales, et notamment quand on a des difficultés qui s'imposent à nous dans certains actes essentiels de la vie, la toilette, l'habillage, etc., qu'on fait avec ces difficultés, qu'on consacre beaucoup d'énergie et qu'on dépense beaucoup de fatigue à faire ces activités-là. À un moment, tout ce qui est entretien du domicile, les petites choses deviennent beaucoup plus compliquées. Et la MDPH, si on ne leur fait la demande que pour les aides ménagères, ils vont nous dire non, c'est pas nous. C'est pas nous. Soit c'est un autre organisme qui va dépendre de l'aide sociale en fonction des revenus, soit on va être amené à faire appel à des prestataires de services et avoir les réductions, les avantages fiscaux qui découlent de l'emploi d'une aide à domicile. Donc, on peut indemniser, c'est d'une personne de sa famille, hein, le montant est assez faible. Après, les montants vont varier en fonction de qui on emploie, auxiliaire de vie, prestataire, etc. Pour tout ce qui est aménagement du domicile, bien sûr, aménagement du véhicule aussi, aide technique, fauteuil par exemple, ou autre téléassistance, ou ce type d'éléments, et les frais spécifiques. Donc, toutes ces demandes se font sur devis. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que, comme on le disait, ces différentes démarches, on les met en route parce que, à un moment, notre santé nous met en difficulté. Donc, on va toujours être en lien avec les différents médecins, que ce soit médecin traitant, médecin neurologue, médecin rééducateur, pour pouvoir amener les éléments de compréhension de sa situation. Parce qu'à chaque situation, vraiment, besoin hein, et capacités différentes. Donc, il faut qu'on arrive dans ces fameuses demandes à faire valoir notre situation et que les personnes, surtout qui décident, arrivent à le comprendre, ce qui n'est jamais forcément évident. Donc voilà, là je vais passer rapidement parce qu'on on l'a fait, mais c'est vraiment effectivement pour se rappeler que dans toutes les demandes, mais que ce soit la MDPH ou autre, hein, on est vraiment là avec soi-même, éventuellement les personnes qui nous entourent, les travailleurs sociaux et les médecins. Donc ces fameux certificats médicaux, je l'ai dit, et ce pourquoi aussi on peut réfléchir, puisque notamment pour les demandes de prestations de compensation, on est plus dans les 6 mois pour les délais de réponse que dans les 4 mois. Après, ça dépend des départements aussi. Il peut y avoir des procédures simplifiées en cas de besoin et de situation qui demande une réponse en urgence. Donc là, c'est un peu c'est les possibilités de recours. Hein, donc je ne vais pas non plus m'étendre là-dessus, puisque ça a un petit peu changé. Les recours amiables sont faits après un certain rapport. Je ne sais pas. Donc rapport, ça veut dire donc recours amiable préalable obligatoire à la NDPH. Peut-être parce que recours gracieux, c'était trop simple. C'est vrai. Voilà, c'est ça. Ah oui, d'ailleurs, vous avez été.
Oui. Alors, si vous voulez, c'est une nouvelle, la contestation devant des décisions de la CDAPH. Ces contestations sont introduites par des textes assez récents. Ils sont applicables depuis le 1er janvier de cette année. Les tribunaux des affaires sociales sont tous supprimés. À la place, c'est le tribunal de grande instance qui va assurer qui va gérer les recours. Mais préalablement, il y a une étape qui est mise en place, qui est obligatoire, qui n'existait pas précédemment. C'est le recours amiable préalable obligatoire devant la MDPH et devant la CDAPH. Voilà. C'est l'introduction d'un élément nouveau, d'une procédure un peu plus lourde, avec une seule structure, un seul tribunal, le tribunal de grande instance, pour gérer la totalité des dispositifs.
Et je vais à nouveau vous laisser le micro, puisque nous enchaînons sur l'activité professionnelle.
Oui, donc la vie se poursuit, on a quelques difficultés, on est toujours fatigué, on ne peut plus travailler à temps complet, on a épuisé quand même du temps de maladie, on a utilisé le temps partiel thérapeutique. Il y a d'autres possibilités. Il y a la mise en invalidité que l'on peut soit patient solliciter directement, soit c'est le médecin conseil de la Sécu, de la caisse primaire, qui va vous mettre en invalidité. Et puis, oui, c'est ça, mais c'est pas parce qu'on est en invalidité, première, deuxième ou troisième catégorie, qu'on ne peut plus travailler. Hein. On peut tout à fait cumuler cette pension d'invalidité, quelle que soit la catégorie et le travail, à condition que le médecin du travail soit d'accord. Donc, c'est le deuxième interlocuteur. Après la caisse primaire, le deuxième interlocuteur, c'est le médecin du travail. Il faut qu'il soit d'accord. Il faut aussi que l'employeur soit d'accord, parce qu'on va vers un avenant au contrat de travail. On passe sur du long terme et du travail à temps partiel à long terme. Voilà. Donc là, on va interrompre son activité, cette fois-ci, pour des tas de raisons, parce que, bon, on est à l'invalidité, on ne veut plus travailler, c'est possible, mais on pourra percevoir quand même des prestations compensatoires, un régime de prévoyance qui, la plupart du temps, aujourd'hui, est prévu par les conventions collectives de travail. Donc, on va pouvoir cumuler, de manière à avoir un revenu correct, une pension d'invalidité et les prestations versées par ce régime de prévoyance. On peut aussi partir à la retraite. La retraite dans la fonction publique, la retraite pour inaptitude, on peut la prendre à n'importe quel âge. Voilà. Dès lors que l'administration ne peut plus vous occuper sur le poste sur lequel vous avez été embauché et qu'il n'y a aucune possibilité de reclassement. Vous êtes, mais là, ça veut dire aucune possibilité de reclassement. Je passe sur la procédure qui est assez lourde, mais que vous pourrez retrouver sur les sites du service public de la fonction publique www.service-public.fr. Vous aurez un déroulé très précis de la procédure. On peut être mis donc à la retraite pour inaptitude, quel que soit l'âge. Mais naturellement, la pension que l'on recevra sera en lien avec le temps de travail que l'on a effectué. Ce n'est pas forcément une solution désirable et souhaitable. À partir de 55 ans, qu'on soit dans le secteur privé ou dans le secteur public, on peut prendre une retraite anticipée. Voyez, là, les interlocuteurs, ce seront les caisses de retraite, les caisses de retraite CARSAT et caisses de retraite complémentaires pour le privé et les services RH dans la fonction publique. Il faut quand même, pour pouvoir bénéficier de cette retraite anticipée, remplir des conditions qui vont être liées au statut de travailleur handicapé. Il faut avoir ce statut de travailleur handicapé depuis un certain temps et il faut également avoir cotisé au régime d'assurance vieillesse ou retraite dans la fonction publique pendant un certain temps. Là aussi, c'est relativement technique, mais toutes les informations, vous allez les trouver d'une manière très précise et bien actualisée, bien à jour sur ces sites du service public. Et puis si on est inapte aussi, il y a la question de l'inaptitude prononcée par le médecin du travail avec impossibilité d'être reclassé dans l'entreprise qui va conduire à un licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement et vous faire basculer dans le régime de l'assurance chômage puisqu'on peut naturellement être demandeur d'emploi et être reconnu travailleur handicapé. Et là, à ce moment-là, on fait appel à des structures SP. Outre la structure de droit commun qui est Pôle emploi, il y a Cap emploi qui intervient en complément pour offrir une offre, une offre d'emploi. Ça ne marche pas toujours très très bien, mais théoriquement, dans le droit, cette structure est faite pour compléter le service offert par Pôle emploi, Cap emploi, et offrir des formations complémentaires.
Là, on a pu aborder les situations. Effectivement, on avait un revenu ou un revenu de remplacement tiré de son activité professionnelle. Donc, il existe bien sûr certaines situations où soit on n'a pas pu travailler, soit pas assez pour avoir un minimum de revenus pour subvenir à ses besoins. Donc, effectivement, dans ces cas-là, il y a la possibilité de faire une demande d'allocation adulte handicapé, donc toujours auprès de la MDPH. L'allocation adulte handicapé, elle est donc accordée par la MDPH et elle est versée par la CAF. La MDPH accorde l'allocation sur le plan médical et la CAF, elle va s'intéresser après à vos revenus et aux revenus du foyer. Donc c'est pour ça que parfois aussi, on peut avoir un accord qui est donné, mais par contre une allocation qui n'est pas versée. L'allocation peut venir en complément d'autres revenus. Elle peut être versée... elle peut être accordée qu'on ait un taux entre 50 et 79% ou au-delà. Mais dans ces cas-là, il va falloir aussi amener les éléments d'information toujours dans le dossier, toujours avec vos éléments à vous, vos récits, votre récit à vous et les éléments du médecin, faire valoir une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Donc, c'est à partir de 20 ans, puisqu'effectivement, toutes les démarches, de toute façon, adultes à la MDPH commencent à partir de 20 ans. En dessous, on est sur le pôle enfant et adolescent. Si cette allocation adulte handicapé éventuellement ne peut être validée ou qu'on ne souhaite pas en bénéficier, parce qu'effectivement parfois pour des raisons pour d'autres, certaines personnes ne le souhaitent pas, on a aussi bien sûr le RSA, donc le revenu de solidarité active. Le principe du RSA, c'est pour des personnes donc, qui n'ont pas de revenus. On est d'accord que c'est un minima social, donc ce sont des revenus qui sont modestes. L'idée, bien sûr, c'est de retourner à l'emploi et vers l'insertion. Mais parfois, pour retourner à l'emploi et vers l'insertion, il faut passer d'abord par le logement ou d'abord par la santé. Et du coup, le contrat va être plus orienté sur des démarches de santé. Donc, il y aura quand même un lien avec le médecin professionnel du pôle d'insertion. Et pour les seniors, donc, puisqu'effectivement, à partir de 60 ans, quand nos difficultés surviennent à partir de 60 ans, on ne peut plus faire appel à la prestation de compensation, et donc on va passer sur un autre système. Donc les aides, soit de la caisse de retraite, soit du département, et là aussi on va essayer de passer assez vite, parce que je pense qu'on est longue. L'idée est toujours la compensation, bien sûr, sous forme d'aide humaine, davantage quand même pour... les caisses de retraite et le département, et après des petites aides à l'amélioration de l'habitat ou des aides techniques. Donc, ce qui va faire qu'on va bénéficier plutôt des aides de la caisse de retraite ou plutôt de l'allocation personnalisée d'autonomie, ça va être son niveau d'autonomie et de dépendance. Voilà. Et ça, c'est la grille sur laquelle on se fonde pour déterminer justement le niveau d'autonomie et de dépendance, donc complété avec son médecin traitant ou avec son médecin spécialiste. Hop, et on arrive sur la fin.
Dernier volet. conduire avec des problèmes de santé. Le code de la route, je le cite textuellement, tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai les manœuvres nécessaires. Lorsqu'il y a plusieurs textes dans le code de la route qui rappellent que lorsqu'on a une difficulté, lorsqu'on est atteint de certaines pathologies ou que l'on souffre d'une déficience physique, visuelle, cognitive, il y a lieu de voir un médecin auprès de la préfecture afin de faire examiner son état de santé et faire contrôler son aptitude à la conduite. C'est très important. Le code de la route ne cite jamais la sclérose en plaques en tant que telle, alors qu'on cite les AVC, qu'on cite l'épilepsie, on cite des problèmes cardiovasculaires, on cite des tas de pathologies. La sclérose en plaques en tant que telle n'est pas citée, mais en revanche, on cite toutes ces altérations visuelles, cognitives, motrices, voilà. Et c'est à ce titre-là qu'on a tenu à parler de cette question, en rappelant qu'il existait à la préfecture un service auquel il faut s'adresser. Il y a des médecins qui sont donc agréés par la préfecture et qui vont fournir cet avis technique à la conduite. Lorsqu'on est autorisé à conduire sans réserve, eh bien, il n'y a pas de souci. C'est validé et on conduit. En revanche, ce médecin agréé peut assortir son aptitude à la conduite de réserve, sous réserve notamment d'aménagement. L'aménagement, on peut y réfléchir du véhicule. L'aménagement, on a pu y réfléchir en amont auprès d'un centre de rééducation, parce qu'il y a notamment à Marseille des centres de rééducation qui permettent de faire le point sur les déficiences, sur les difficultés et qui proposent des aménagements. Le dossier est communiqué à ce médecin et à partir des informations communiquées par ce centre de rééducation, le médecin va conclure à l'aptitude sous réserve d'aménagement qui figureront dans le nouveau permis tel qu'il est délivré. Voilà. Donc il y a après deux situations. Soit on est déjà titulaire du permis. À ce moment-là, après vérification donc de votre état de santé, de l'aménagement, on va vous faire un test de conduite et on vous délivrera ce qu'on appelle un permis adapté. Dans la CEP, en général, il est pour une durée limitée entre 1 et 5 ans compte tenu de l'évolubilité du fait de la maladie. Et par contre, si on ne possède pas le permis, eh bien il va falloir prendre contact avec une école, auto-école spécialisée qui va faire passer le permis sur une voiture spécialement aménagée. En tout cas, c'est toujours le préfet qui délivre le permis. Et si on vous dit tout ça, c'est parce que derrière, il y a l'assurance. Et pour éviter tout problème avec sa compagnie d'assurance, il faut respecter ces règles. Voilà. Il faut.